Bonjour chers auditeurs de RLP, vous avez un nouveau rendez-vous avec l'histoire du Périgord et des Périgourdins présenté par les membres de la Société historique et archéologique du Périgord.
Cette chronique, habituellement, est animée par Michel Roy, qui aujourd'hui devient notre invité. Bonjour, Michel Roy.
Bonjour, Aïda, et merci d'avoir accepté de me donner la réplique.
Vous faites partie aussi de chercheurs de la CHAP, Société historique archéologique de Périgord. Donc vous aussi, comme vos invités de votre chronique, vous faites les recherches, vous préparez les articles. N'est-ce pas?
Bien sûr, tout à fait.
Aujourd'hui, un personnage, qu'on vous dit hors du commun, qui sera le sujet de cette émission radio.
En effet, un personnage hors du commun qui a déjà été étudié par d'autres chercheurs de la CHAP. Mais il se trouve que je suis tombé tout à fait par hasard sur une thèse de médecine concernant ce personnage. Et par ailleurs, on va voir que ça résonne tout à fait avec mon ancienne profession de psychiatre. Puisque c'est un personnage quand même très particulier sur le plan mental, dirons-nous.
Aujourd'hui, vous avez même amené un beau livre de couleur bleue pâle. C'est ça l'origine de vos travaux, c'est ça?
C'est ça. C'est une couverture qui retient autant que possible les feuillets d'une thèse de médecine publiée en 1914 sur un papier de piètre qualité.
Oui, on voit que c'est vraiment édition ancienne.
Voilà.
Dites-nous, de quoi s'agit-il, de qui on va parler aujourd'hui?
On va parler de Suzette Labrousse. Suzette Labrousse qui était née à Vanxin, en Dordogne, en 1747, et qui est décédée à Paris en 1821. Son biographe met en préface une vie de 75 ans semée d'événements étranges.
Finalement, qui était cette femme, Suzette Labrousse?
Alors, Suzette Labrousse se nommait Clotilde Suzanne Courcelles-Labrousse et elle est issue d'une famille établie à Vanxin depuis le début du XVIIIe siècle. Son père, Jean Courcelles, sieur de Labrousse, était receveur des dîmes de la chartreuse de Vauclair, c'est-à-dire qu'il percevait les impôts dus aux religieux de la chartreuse de Vauclair. Et on va voir, hein, Vauclair, c'est devenu ensuite un hôpital psychiatrique. Donc Jean Courcelles Labrousse, le père de notre personnage, a épousé en 1739 Marie-Angélique Balestard, qui était la fille d'un riche drapier de Libourne. Le couple a eu 10 enfants. Donc Suzanne a eu 9 frères et sœurs. La famille vivait à Vanxin, dans une maison proche de l'église, qui était adossé à la maison d'immière des Chartreux de Vauclair, c'est-à-dire en quelque sorte le bureau de son père. Vanxin, c'était alors un village isolé au cœur de la Double. La Double qui était à l'époque un pays de forêts sombres et de marécages propices à la malaria. On en trouve des descriptions dans L'ennemi de la mort, le roman d'Eugène Leroy.
Vous décrivez cette enfance, mais c'est un petit peu enfance ordinaire. Ça pourrait
voilà.
être n'importe qui pourrait avoir la même enfance, n'est-ce pas, à cette époque?
Sa petite enfance est ordinaire, mais on va voir que ça commence très tôt. Qu'est-ce qui commence très tôt? C'est sa propension au mysticisme. Alors, elle habitait près de l'église, sa famille était assez religieuse, et donc elle a été élevée religieusement. Mais dès l'âge de 7 ou 8 ans, elle a fait preuve d'un véritable mysticisme exacerbé, avec la volonté de communier plusieurs fois par jour. À d'autres moments, elle passait des heures couchée dans l'herbe à regarder le ciel pour y voir Dieu, pour y découvrir l'image de Dieu. Au début de l'adolescence, elle va s'infliger des privations, se priver de certaines nourritures ou manger des aliments plutôt fétides. Elle va aussi s'infliger des mortifications. Et plus tard, à l'âge de devenir bonne à marier, comme on disait dans la région, ses tantes de Libourne veulent la marier, lui proposent des prétendants, mais elle va les refuser, déclarant qu'elle a mieux à faire que de se marier. Et par la suite, même à l'âge de 20 ans, elle va se couper les cheveux et même chercher à se défigurer en s'appliquant sur le visage un masque enduit de chaux-vive, sans y réussir. Mais là n'étaient que des manifestations pas trop pathologiques de son mysticisme. Mais il y en a eu d'autres, et en particulier vers l'âge de 12 ans, un jour elle a eu la révélation. Elle était dans l'église de Vanxin, en prière, et soudain elle a entendu une voix qu'elle a tout de suite reconnue comme étant la voix de Dieu, et Dieu lui intimait l'ordre de quitter la maison familiale, de partir en mission, de par les chemins, tout ça pour prêcher une réforme de l'Église, selon elle corrompue par le pouvoir des puissants. Et ça va être durant une trentaine d'années le thème permanent de sa mission, ou de ce que d'autres appelleront, et moi-même j'appellerai son délire.
Oui, mais comment réagit l'entourage,
L'entourage, d'abord, les frères et sœurs, certains se moquaient d'elle, le voisinage encore plus. Et en fait, ils ont été un petit peu soulagés quand, vers l'âge de 25 ans, elle a décidé, semble-t-il, sur les conseils du curé de Vanxin, elle a décidé d'entrer en religion. Donc, elle est partie pour Périgueux, où elle a passé 2 ans au couvent des Ursulines. Elle semble avoir été reçue, très bien reçue et très fraternellement par les sœurs, mais très vite, l'aumônier du couvent s'est aperçu du caractère quand même un peu pathologique de sa foi et de son mysticisme. Et au bout de 2 ans, on a pris comme prétexte la maladie de son père, maladie réelle puisqu'il en est mort, pour la renvoyer dans sa famille à Vanxin. Et donc, elle est rentrée à Vanxin et elle s'est à nouveau un peu cloîtrée dans sa maison et elle s'est mise à rédiger ce qu'elle va appeler plus tard ses prophéties, que d'autres appelleront ses prophéties, parce qu'elle l'appelait plutôt ses énigmes. Et on verra tout à l'heure ce qu'étaient ces énigmes. Elle tente même, par l'entremise du curé, de faire parvenir un manuscrit à l'évêque de Périgueux. Nous sommes dans les années 1770. L'évêque de Périgueux est monseigneur de Flammarens et il aurait reçu sa missive et les énigmes en question, les aurait parcourues très vite et jetées au panier en s'écriant « Elle est folle ».
C'est étonnant parce que dans le milieu de religion, ça pourrait être quelqu'un qui a vu les choses,
c'est vrai.
Apparitions, etc. Mais non, même dans le milieu religieux...
100 ans plus tard, quelqu'un d'autre a été canonisé. Alors, pas pour le même genre de phénomène. Les apparitions et les voix, il semble bien que ce soit différent. Et en psychiatrie aussi, d'ailleurs.
Vous l'expliquerez un petit peu plus.
Alors,
oui.
qu'étaient les prophéties de Suzette Labrousse? Eh bien, ces prophéties, il faut dire qu'elle a commencé à les écrire, mais elle a continué à les écrire, à les exposer, à les prêcher même dans certaines églises, après avoir rencontré des religieux. Le premier qu'elle rencontre, c'est un personnage qu'on retrouvera à la Révolution. Elle le rencontre en 1777 à Vanxin, c'est Don Gerle, et Don Gerle était un chartreux originaire de la région de Clermont-Ferrand qui a passé 3 années à la chartreuse de Vauclair avant de devenir lui-même prieur d'une abbaye en Auvergne. Et Don Gerle avait été très impressionné par les prophéties et la révélation de Suzette Labrousse. Et il l'a encouragée à persévérer dans sa mission. Elle a même écrit plus tard « Enfin, Dieu a daigné me manifester sa volonté par la bouche d'un religieux. Don Gerle m'a pressé de me mettre en marche et d'annoncer au clergé de France et à celui du monde entier que l'heure était venue de réformer les abus qui se glissent dans l'Église. Que les grands seigneurs prennent garde. Leurs privilèges et leurs richesses sont des iniquités. » Ça, c'est ce qui a été écrit, ou du moins publié à la période révolutionnaire. Est-ce que c'était vraiment les prophéties de Suzette elle-même, ou bien est-ce que ça n'a pas été un peu modifié à la période révolutionnaire sous l'influence des religieux qui la soutenaient. On en reparlera. Plus loin, elle écrit toujours dans ses prophéties, « La France va être le centre des grands événements et comme le berceau de nouveaux triomphes. Ma province sera le sanctuaire et ma paroisse comme le saint des saints. On bâtira à Vanxin une superbe ville avec une place pavée de marbre blanc, avec de grandes rues bordées de magnifiques palais pour loger les fameux pèlerins des nations qui viendront voir l'échantillon de ce qui sera dans l'autre monde. » Dans cette prophétie que certains ont pu voir une annonce de la Révolution. Mais là encore, est-ce que c'est la prophétie telle qu'elle l'a entendue dès le départ ou est-ce que c'est une reconstruction? Toute la question est là. Donc elle a continué dans les années 1780 à adresser ses textes à différents religieux alors que la Révolution se passait à Paris et qu'elle en avait, semble-t-il, quelques connaissances, puisque les nouvelles allaient assez vite. Quant à Don Gerle, il était devenu, lui, représentant suppléant du clergé de Rion aux États généraux, en 1788-89. Alors, toute la question se pose aussi par rapport à un tableau célèbre, c'est le serment du jeu de paume attribué à David. Alors, il y a eu là aussi des publications dans le sein de la Société historique du Périgord concernant ce tableau. Car il semble bien que dans le groupe de trois religieux qui y figurent, celui de gauche soit Don Gerle. Et ça avait été dessiné au départ, l'esquisse avait été dessinée par David lui-même. Mais le tableau n'a pas été terminé par David, il a été terminé pratiquement 100 ans plus tard par un de ses élèves. Mais néanmoins, Don Gerle y figure en aube blanche, représentant le clergé régulier, les moines. Il y est en compagnie de l'abbé Grégoire, personnage célèbre de la Révolution, qui lui était curé et représente le clergé séculier, et d'un troisième personnage qui est un pasteur protestant. Donc, une réunion écuménique destinée à faire la promotion du nouveau statut des religieux sous la Révolution. Mais là encore, deux auteurs que nous connaissons, puisqu'ils ont parlé aussi pour la radio, Brigitte et Gilles Deluc, ont démontré que Don Gerle ne pouvait pas avoir assisté à la fameuse réunion du serment du jeu de paume, puisqu'il n'était que représentant suppléant du clergé de Rion et que le titulaire avait, lui, assisté à cette réunion. Mais ça montre un petit peu tout ce qui se passait à l'époque et toute l'utilisation qui pouvait être faite des différents personnages. Par l'entremise d'un de ses cousins, Suzette Labrousse a recontacté Don Gerle en fin 1789 et elle a décidé d'aller le rejoindre à Paris. Don Gerle était ravi et il a même décidé, comme on dirait maintenant, de faire sa promotion. Il voulait la présenter à l'Assemblée législative et qu'elle expose ses prophéties. Suzette est donc partie de Vanxin à pied. Il lui a fallu un certain temps pour arriver à Paris, où elle est arrivée précédée de colibets et précédée de pamphlets qui la décrivaient comme la fameuse dinde du Périgord, comme la pucelle du Périgord, comme Jeanne d'Arc sauvait la France. Et à son arrivée à Paris, elle va être accueillie dans des cercles mystico-religieux que fréquentait Don Gerle et qui gravitaient autour du salon de la Duchesse de Bourbon, qui sera dite un peu plus tard citoyenne vérité. Elle-même, non seulement adepte des principes de la Révolution, mais très adepte aussi de spiritisme. Suzette Labrousse et Don Gerle vont y rencontrer une autre mystique, Catherine Théo, surnommée la Mère de Dieu, une vieille femme qui prêchait chez elle à Paris dans un espèce de décorum rassemblant à la fois le spiritisme, la magie noire et on pourrait dire le grand guignol. Un autre personnage religieux va contribuer à propager les prophéties de Suzette. C'est Monseigneur Pierre Pontard. C'est un ecclésiastique qui avait prêté le serment révolutionnaire et qui, en 1791, va être élu évêque constitutionnel de Périgueux. Poste qu'il a occupé pendant 2 ans avant de se marier, mariage civil, de perdre son poste et lui-même d'abandonner la religion. Il avait été élu à la législative en 1791. Il a siégé jusqu'au moment de la Convention, c'est-à-dire pendant un an, mais il n'a pas été élu à la Convention. Et donc, après Thermidor en particulier, il est tombé en disgrâce et il a terminé dans un hospice parisien où il était entretenu grâce à une pension de la duchesse de Bourbon. Dans cette période révolutionnaire, certains prétendent que Suzette aurait rencontré Robespierre, Marat, tous les grands montagnards de l'époque. Alors on pense qu'il est certain qu'elle a certainement rencontré l'abbé Grégoire, mais pour ce qui est des montagnards les plus célèbres, c'est tout à fait douteux. Elle n'a même pas réussi à exposer ses prophéties devant l'Assemblée, car le jour où Don Gérald a voulu la présenter, ça a tourné court, la séance s'est arrêtée et il est reparti sous les colibets. En tout cas, au moment de Thermidor, certains ont établi des relations entre les milieux mystico-religieux qu'elle fréquentait et Robespierre. Ça a servi, entre autres, d'accusation contre Robespierre. Mais là encore, rien ne prouve que Suzette et Robespierre se soient rencontrés. On peut même se demander si ces accusations n'ont pas été des preuves à charge inventées contre Robespierre. Tout comme il faut savoir qu'un conventionnel périgourdin, Élie Lacoste, élu de Montignac, a fait partie de ceux qui, le 5 Thermidor, ont accusé Robespierre. Il l'accusait en particulier de fréquenter une maison de jeu qui n'était ni plus ni moins qu'une maison plutôt close. Et là encore, c'était vraiment, semble-t-il, pour les historiens sérieux, c'était des accusations mensongères. Si on lit Michelet, si on lit l'histoire de la Révolution de François Furet, tout ça, on s'aperçoit que c'était des calomnies et qu'en fait, Robespierre était un personnage d'un grand rigorisme moral qui a toujours défendu l'être suprême, certes, c'est-à-dire la vision révolutionnaire de la religion, cet être suprême qui pour lui était le rempart contre le fanatisme et l'occultisme.
Voilà quelle époque, tout se mélange, tout est possible. Et avant de reprendre la présentation de cette vie mystérieuse de Suzette Labrousse, on vous propose un choix musical. Donc vous avez choisi...
En rapport avec la période.
On écoute.
Madame Veto avait promis, Madame Veto avait promis de faire égorger tout Paris, de faire égorger tout Paris. Mais son coup a manqué grâce à nos canonniers.
On reprend cette chronique avec Michel Roy pour présenter cette vie, ce personnage hors commun, Suzette Labrousse. Donc maintenant, son voyage en Italie pour rencontrer le pape.
Alors, on avait quitté Paris, la Révolution, à la période la plus agitée, celle de la Terreur. Beaucoup de personnages y avaient laissé la tête. Suzette, malgré tout ce qu'elle a pu dire, elle n'était plus là, puisqu'elle avait décidé, un peu sous la pression aussi de Don Gérald et de Pontard, elle avait décidé de franchir un pas de plus, c'est-à-dire de tenter d'aller convertir le pape à la nécessité de la constitution civile du clergé. Elle rêvait même de ramener le pape devant l'Assemblée législative pour qu'il bénisse, entre guillemets, la constitution civile du clergé. Elle avait donc quitté Paris le 19 février 1792, sous les encouragements de Monseigneur Pontard, qui avait même publié dans son journal prophétique les dires de Suzette. Elle est donc retournée à Vincennes, d'abord en voiture, en malle-poste jusqu'à Angoulême, puis encore à pied. Et vers la mi-février, elle décide de partir pour Rome et elle part à pied à nouveau. Et elle va faire tout un périple. Elle n'arrivera en Italie que 6 mois plus tard. Elle fait halte dans plusieurs villes où on retrouve la trace de ses passages. Montauban, Narbonne, Lyon, Grenoble. Elle n'allait pas en ligne droite. Hein. Et dans beaucoup de ces endroits, elle prêchait dans les églises tenues par des prêtres assermentés. Elle y exposait ses prophéties et parler toujours de cette peste aristocratique qui fait confondre l'Église de Jésus-Christ avec la cour romaine. Elle finit par arriver en Italie en août de 1792. Elle arrive à Bologne. Elle en est chassée très vite sur ordre du légat du pape. Et elle sera même arrêtée à Viterbe et conduite à Rome, où elle va comparaître devant un cardinal inquisiteur. Là, on l'accuse même de vouloir tuer le pape. Mais le cardinal qui l'interroge 5 fois, semble-t-il, va finir par s'apercevoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas très bien. Il va la condamner à la détention à vie, mais considérer quand même qu'elle a l'esprit égaré et donc lui laisser la vie sauve. Elle va donc être emprisonnée au château Saint-Ange, c'est-à-dire la prison du Saint-Office à Rome. Mais entre-temps, en France, le régime a changé et en 1798, Bonaparte conduit la campagne d'Italie et finit par rentrer dans Rome. Là, on propose de rapatrier Suzette Labrousse, mais c'est elle qui refuse. Elle refuse parce qu'elle dit qu'elle veut rester au moins jusqu'en 1800, parce que là, elle pense qu'elle va s'envoler et aller au ciel rejoindre Dieu. En 1800, elle n'ira pas au ciel, mais elle finira par accepter de revenir à Paris. Et elle revient à Paris en 1800 et elle disparaîtra pratiquement totalement de la vie publique jusqu'à sa mort en 1821, non sans avoir publié un petit livre intitulé « De la manière et procédé à employer pour avoir des enfants beaux et bons ». Elle qui n'avait pas d'enfants. D'autres prétendent qu'elle se livre à l'occultisme. Certains disent qu'elle fait de l'argent en faisant des affaires. Bon, c'est difficile de savoir. Elle finit par mourir en 1821 et personne ne sait même où elle a été enterrée. Le père Pomared, le révérend qui a été président de la chape il y a une quinzaine d'années, avait écrit de nombreuses lettres, mais n'a jamais réussi à savoir où elle était enterrée. Ses prophéties et ses énigmes ont été publiées en français et même en italien. La plupart des publications ont été faites pendant la période révolutionnaire. Je vais vous lire un petit exemple de ces énigmes.
Dans ce livre que vous avez amené.
Ce livre que j'ai amené, dont je déchire une page malheureusement. « J'ai vu le fort armé contre moi, ses armes s'agiter et sa puissance déguisée me poursuivre. » Mais espérant que dans la suite la lumière et la puissance duquel je marche en la présence, me purifiant de ma lèpre qui est pour lui comme une pierre d'aimant, alors moi purifié et lui renversé, ma bouche s'ouvrira plus que pour parler des choses du Seigneur. » Voilà, si vous avez compris, écrivez-moi, merci. Alors, on va essayer de faire un petit peu une interprétation dans le domaine qui m'intéresse.
Oui, sur
le
parce qu'il faut rappeler nos auditeurs, vous êtes médecin, psychiatre, donc de cet aspect-là que ça vous intéresse, ce personnage.
Ça m'a particulièrement intéressé. Non sans rappeler qu'en d'autres temps, les mêmes faits et l'exposé des mêmes prophéties auraient pu lui valoir un procès en béatification. Ça s'est fait pour d'autres. Mais on a vu que ça avait mal commencé pour elle, puisque dès le début, Monseigneur de Flammarens, évêque de Périgueux, dit « c'est une folle ». Son biographe principal, l'abbé Christian Moreau, en 1886, lui la qualifie d'hystérique. Et d'une, il n'est pas médecin, et de deux, nous sommes en 1886, l'hystérie, c'est à la mode. C'est le moment où Charcot montre des hystériques à la Salpêtrière dans ses leçons cliniques. C'est le moment où Freud commence ses travaux et va ensuite décrire l'inconscient à partir de la psychologie des hystériques. Mais, comme je l'avais dit au tout début, c'est la découverte d'une thèse de médecine soutenue en 1914 qui m'éclaire un peu plus sur le personnage. Cette thèse a été soutenue à Paris par Federico Morga, qui était guatémaltèque et qui est venu faire ses études à Paris et qui a soutenu cette thèse concernant la vie de Suzanne Labrousse devant un jury présidé par un médecin qui était titulaire de la chaire d'hygiène de la faculté de Paris. L'hygiène, on appelle ça la médecine de santé publique. Et ça s'intéresse non seulement aux maladies, mais à la manière de les prévenir et aussi à la façon de soigner, de traiter, mais aussi de soigner, c'est-à-dire de prendre soin des personnes qui en sont atteintes.
Avec la prévention, c'est
ça ? Avec la prévention. Donc, ça peut expliquer pourquoi il s'est intéressé au cas de Suzette. Et il s'y est intéressé, pour lui, ce cas était typique de ce qu'on appelait à l'époque une psychose systématisée progressive, c'est-à-dire une forme de paranoïa. Ce terme de psychose systématisée progressive avait été proposé par le professeur Régis, qui était professeur de clinique psychiatrique à Bordeaux. Dans un précis de psychiatrie, publié 5e édition en 1914, même année que la thèse, publié dans une collection dirigée par le professeur Léo Testu, le célèbre anatomiste d'origine périgourdine. Alors, c'est en 1914, délire systématisé progressif. À l'époque où je préparais l'internat de psychiatrie, c'est-à-dire il y a bientôt 50 ans, une telle patiente aurait été parfaite pour ce qu'on appelait les présentations de malades. Un petit peu le style à la Charcot, mais où on devait donner des conclusions sur des hypothèses diagnostiques. En la voyant, j'aurais discuté le diagnostic en hésitant entre une schizophrénie, un délire chronique systématisé, comme disait Murga, ou encore une psychose hallucinatoire chronique, encore un terme décrit dans les années 1914, 1910, 1911, par Gilbert Ballet, un psychiatre illustre originaire d'Ambazac, près de Limoges. Si on voulait discuter la question au XXIe siècle, ce serait très simple, on ne parlerait plus que de schizophrénie, puisque la psychiatrie actuelle classe les maladies en référence au DSM, c'est-à-dire la classification américaine, et dans cette classification américaine, le symptôme hallucinatoire induit pratiquement le diagnostic de schizophrénie. Voilà ce qu'il en est des discussions médicales possibles. Mais que conclure sur un plan plus général ? En dehors de tout débat religieux ou médical, on est quand même devant un personnage assez exceptionnel, ayant une vie qui est une véritable épopée romantique. Et dans une période tout à fait propice à ce type de débordement. Mais sans s'intéresser au côté religieux ni trop au côté médical, on pourrait la classer et la mettre à côté d'autres femmes célèbres de l'époque, comme Olympe de Gouges, la célèbre féministe, ou encore Madame Tallien, qui elle aussi a eu une vie impensable. Une aristocrate d'origine espagnole qui a tenu salon, elle aussi, sous la Révolution. Elle recevait Madame Récamier, Joséphine de Beauharnais, les Girondins. Au moment où les Girondins sont tombés, elle a failli perdre sa tête pour de bon. Mais elle a été sauvée par Tallien, dont elle est devenue la compagne. Ça n'a duré que quelques mois. Elle est ensuite devenue la compagne de Barras, qui deviendra l'un des directeurs lors de la période du Directoire. Comme on le voit, une période très riche en événements et propice à des biographies tout à fait particulières.
Ouais. Comment aujourd'hui on traiterait ce cas-là, Michel Roy ? Comment Suzette Labrousse serait considérée aujourd'hui ?
Ah, je pense qu'il y a toujours un débat quand même entre la mystique au sens religieux du terme et la mystique au sens pathologique. Mais je pense que ça pourrait faire un film.
Bien, je vous remercie, Michel Roy, pour votre chronique, cette fois-ci présentée par vous.
Merci de votre aide.